Avertissement. Le contenu discuté dans ce podcast sert uniquement à des fins de divertissement et ne doit en aucun cas être perçu comme des conseils d'investissement. Bonne écoute.
Vous savez que Coca-Cola, là, la valeur de la marque est incroyable, puis elle apparaît au bilan de Coca-Cola parce que ça vaut quelque chose.
On a vu dans les trois derniers épisodes de Garde le change le trio de feu, ce qui veut dire l'analyse fondamentale, l'analyse technique et l'analyse du comportement humain. Et aujourd'hui, on est là pour savoir comment mettre ces trois types d'analyses-là en pratique. Sam et moi, encore une fois, on reçoit le vulgarisateur boursier Michel Villa. Salut Michel.
Salut David. Salut Samuel.
Merci encore une fois d'être présent sur le plateau aujourd'hui. Écoute, je pense qu'on devrait commencer général, à savoir si je m'installe devant mon ordi là, avec les trois types d'analyses qu'on a vues,
oui.
Qu'est-ce que je dois faire?
Écoute, tu vas commencer avec l'analyse fondamentale, puis ce que tu vas faire, tu vas commencer à lire les états financiers. Tu vas calculer les ratios financiers, à savoir est-ce que l'action est chère ou pas chère. Si ça ne te tente pas, tu t'en vas sur le web et tu lis des rapports qui ont été faits par des analystes financiers.
Tu te fies sur un expert.
Absolument, parce que lui va te permettre de sauver du temps, puis lui il a déjà fait tous ces calculs-là.
Mm-hmm.
La question à 100 $, c'est à savoir, c'est quoi le catalyseur qui va faire que ta thèse va fonctionner à long terme?
Okay.
C'est quoi qui va permettre l'action de passer d'un point A à un point B? Si on prend Visa, évidemment, les cartes de crédit Visa, on voit que depuis le début de la pandémie, on verse des chèques aux gens.
Ouais.
Okay? Parce qu'on est vraiment dans un mode transition, de confinement social à un retour vers l'économie plus normale. Ce qui arrive, c'est que les gens gardent cet argent-là pour eux autres. On a vu qu'aux États-Unis, le taux d'épargne est d'environ 20 %.
Ouais, quand même.
Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas voyager, on ne peut pas aller voir des spectacles de musique, aller voir le Super Bowl. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on épargne. Le hic, c'est que pour les compagnies de cartes de crédit comme Visa, ben, ils ont une baisse de revenus parce que les gens consomment moins.
Et payent leur carte.
Et payent leur carte
ça, c'est
à temps.
S'il y avait du cash encore dessus. Ouais.
Mais on s'entend que l'être humain, il aime ça se gâter. Hein?
Ouais.
À court terme, on recherche le plaisir, la bonne bouteille de vin, Netflix.
Ouais.
Puis ce qu'on dit, ben, on se fout un peu des conséquences à long terme. Puis dans le domaine des placements et de la finance, c'est très, très fréquent de voir quelqu'un, comme on dit en bon français, qui load sa carte. Moi, je pense que Visa, le fait que l'action n'a pas tant participé dans ce rallye boursier depuis les bas qu'on a vus en mars 2020, je pense que ça pourrait être une belle opportunité d'achat à long terme, basé sur le fait que l'être humain aime ça dépenser, loader sa carte de crédit pour profiter de la vie. Et Visa pourrait bénéficier d'un environnement là, vraiment favorable pour cette action-là à long terme.
C'est ça, parce que là, si je comprends bien, en ce moment, bon, les actions peut-être sont pas chères pour Visa parce que justement, les gens n'ont pas loadé leur carte. Mais quand ça va recommencer, là,
oui.
Le train de vie de l'humain normal, en tout cas en Amérique du Nord, ben là, ça va être bon justement d'avoir des actions de Visa parce qu'ils vont valoir plus cher.
Absolument.
Okay.
Ça serait ma thèse de départ, ma trame de fond. Là, la deuxième question, je me dis, d'un point de vue technique, sur un graphique, ça a l'air de quoi, l'action de Visa? Bien, l'action de Visa, elle se négocie au-dessus de la moyenne mobile 200 jours. La moyenne mobile 200 jours, c'est un indicateur à savoir est-ce qu'on est en tendance haussière ou tendance baissière. Donc, quand on se négocie au-dessus de la moyenne mobile 200 jours, parfait, on a le feu vert. Si on serait en dessous, là, on aurait une petite gêne. Par rapport à Visa, bien installé au-dessus. Donc, pas de problème par rapport à ça. Et là, tu te dis, est-ce qu'il y a un endroit intéressant pour embarquer, et là, on parle d'un niveau de support.
Mm-hmm.
Tu sais, le niveau de support, là, c'est un endroit où les acheteurs rentrent de façon plus agressive que les vendeurs. Et là, on regarde sur le graphique, ça peut être 200 $, 205, 210, peu importe. Et là, tu essaies de cibler un point d'entrée. Donc, tu as ton histoire au niveau fondamental. D'un point de vue technique, tu veux savoir c'est quoi ton point d'entrée idéal. Puis évidemment, tu te poses la question après, c'est quoi le sentiment autour de Visa? Et là, les gens vont dire, ah, ben il y a un risque que les vaccins ne fonctionnent pas. Il y a un risque qu'il y ait d'autres variants, etc. Et là, on pourrait avoir un retour vers la normale seulement en 2022-2023. Et là, ça pourrait être problématique pour Visa. Alors, le sentiment, il n'est pas si optimiste que ça pour l'action de Visa. C'est ça que tu veux. Hein? Tu veux acheter là, quand il y a du sang dans les rues. Puis tu veux acheter quand c'est pessimiste. Alors, je dirais que l'alignement est présent. Entre l'analyse fondamentale, l'analyse technique et le sentiment. Et c'est ça l'objectif, parce que qu'est-ce que tu veux au final? Tu vas avoir le vent dans le dos quand tu fais un investissement à long terme. Ça, ça serait un premier exemple.
Et puis par rapport, au début, tu as commencé et tu as dit, bon, mais tu sais, il faut éplucher les états financiers. Tu sais, c'est certain que, bon, la moyenne des gens ne savent peut-être pas lire des états financiers, puis c'est bien normal, tu sais. Par contre, quand on regarde une grande compagnie comme Visa puis ou Mastercard ou Amex, mais plus particulièrement Visa et Mastercard, tu sais, c'est des gens qui ont un certain monopole sur la planète dans le domaine transactionnel, tu sais. Fait que, tu sais, c'est certain qu'à la base, tu te dis, ces compagnies-là, demain matin, avec la consommation qu'on voit, puis tu sais, qu'on entend parler qu'on est toujours en surconsommation, ben tu sais, on peut prétendre que c'est pas demain la veille que ces entreprises-là vont être en décroissance, tu sais. Puis avec ce que Michel disait, que durant la pandémie, les gens ont sauvé de l'argent, mais ils ont aussi pas fait souvent de très grosses dépenses comme des voyages puis des trucs du genre. Ouais. Fait que la thèse que tu avais de dire on peut présager que Visa va aller à la hausse, parce que quand les gens vont être déconfinés, vont pouvoir redépenser, ben chasse naturelle, puis reviendra au galop. Fait qu'ils vont se remettre à dépenser. Fait que je pense que pour quelqu'un qui débute puis qui a pas nécessairement toutes les notions qu'il faut avoir, juste la thèse du fait que hey, je pense que les gens vont recommencer à consommer, peut jeter un bon flash pour dire ben regarde, moi j'embarque dans Visa, dans Mastercard, puis bon, mais je le garde pour le long terme. Je pense pas que faut s'arrêter à dire « Ah, ben là, j'ai pas tout fait mes devoirs, fait que là, je sais pas si je devrais embarquer. » Je trouve que pour des grosses capitalisations, puis avec ce genre de thèse-là, c'est juste le bon coup de pied pour dire « Ben, garde, j'embarque, puis je surfe la vague. »
Donc, Visa est quand même une option sécuritaire pour un investisseur qui commence.
Ben, on donne pas de conseils, là, tu sais.
Mais
tu sais, si on regarde une grosse capitalisation qui a un certain monopole par rapport à la situation actuelle, on peut penser que c'est un bon achat. Mais il y en a plein de bons achats comme ça, tu sais. Mais il faut juste se poser des questions, tu sais. Puis juste le fait de, comme tu disais dans un autre podcast, OK, je me pose la question, moi, j'achète telle action à la troisième personne, puis tu le regardes de haut, puis tu le regardes froidement. Il y a bien des déductions qu'on peut faire aussi, là, puis je pense qu'il faut se faire confiance. Puis c'est surtout de passer à l'action, puis passer un ordre d'achat. Puis tu sais, je pense que la pire chose à faire, c'est d'être freiné à faire un achat, puis de juste pas en faire, parce que on se dit tout, ah ouais, mais je suis pas sûr si c'est ça. Je me trompe-tu?
Non, c'est parfait. Puis je vais juste revenir à ce que tu mentionnais avant. Là. Pour quelqu'un qui n'a pas vraiment de connaissances, on a parlé du ratio court-bénéfice. Ce qu'on peut faire, c'est de taper Visa Yahoo Finance et on va voir le ratio court-bénéfice actuel de Visa. Hein? Vous vous souvenez, c'est le prix payé pour la croissance future.
Ou le price earning per share.
Oui, absolument, ou le multiple. Alors, si on a un ratio court-bénéfice de 30, c'est une entreprise qui a un profil de croissance vraiment là, élevé qu'une action, mettons, qui a un ratio court-bénéfice de 15. Donc, on a accès gratuitement à un profil historique du ratio court-bénéfice. Par exemple, si Visa est à 25 fois les bénéfices, vous voulez savoir qu'historiquement, c'est cher ou pas. Est-ce que son maximum, c'était 40 ou c'était de 30? Et vous êtes en mesure de savoir, OK, là, je pense que je l'achète à un moment donné où est-ce que je suis plus vulnérable à ce que l'action recule ou, évidemment, c'est une aubaine. Alors ça serait une belle façon là, pour se débrouiller très rapidement, juste de se familiariser avec la notion de ratio court-bénéfice. L'autre point que vous avez mentionné, les deux, c'est l'avantage compétitif, l'avantage concurrentiel. Comme mentionnait Samuel, qui va rentrer demain matin pour faire mal à Visa? Les barrières à l'entrée sont assez élevées, puis ce que j'aime beaucoup avec Visa, sont vraiment en avance d'un point de vue technologique. Parce qu'il y a des rumeurs qui courent que certaines compagnies comme Apple puis Facebook ont l'intention de rentrer dans l'industrie des services financiers. Parce qu'imaginez la base de clients qui ont l'information. Demain matin, ils pourraient arriver et dire « Nous, on va offrir, dans le fond, des cartes de crédit ou un service là, financier vraiment, là, ça accroche. » Et ça pourrait vraiment là, venir déranger un peu là, ces entreprises-là qui sont dans les industries des services financiers, cartes de crédit, prêts commerciaux, même les hypothèques. On pourrait voir ces entreprises-là technologiques là, faire une percée là-dedans. On a vu avec Amazon, par exemple, dans le secteur de la santé, le secteur du livre, vêtements,
alimentation,
etc., alimentation.
Donc, ils ont acheté Whole Foods.
Oui, absolument, il y a quelques années. Donc, on pourrait voir là, une percée de ces entreprises technologiques-là. Mais Visa le sait et se prépare par rapport à ça. Donc, se poser la question, est-ce que l'entreprise que j'investis maintenant, est-ce qu'il y a des bonnes chances qu'elle soit là encore dans 5 ou 10 ans?
Ouais.
Puis qu'est-ce qui va faire qu'elle va être là? C'est comme un joueur d'échecs, c'est de penser 4 ou 5 coups d'avance.
Puis quand on parle de, tu sais, bon, on a parlé de l'analyse du comportement humain, tu sais, puis
oui.
Un peu des montagnes russes d'émotions qu'on va avoir en détenant un stock. Tu sais, c'est sûr que, tu sais, si on regarde une action puis on se dit, écoute, demain matin, je suis pas mal sûr que cette compagnie-là va être encore là, bien, des fois, ça peut nous rassurer par rapport au choix qu'on a fait. Oui. En tout cas, ben j'ose avancer ça parce que, tu sais, si tu achètes, bon, une compagnie comme NIO ou Tesla, tu sais, oui, la technologie est super, le fondateur, le PDG est extraordinaire, puis on veut suivre ce messie-là. Par contre, tu sais, si tu regardes GM avec leur capacité de production, leur capacité de déploiement qui est 100 fois grosse comme Tesla, ça serait utopique de croire que GM ne pourrait jamais les renverser. Tu sais, ça pourrait être, mm-hmm. ça pourrait être autre, quand même hautement possible.
Oui.
Mais des compagnies comme, tu sais, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, tu sais, qui font, tu sais, du papier de toilette depuis 200 ans, tu sais, c'est pas demain la veille qu'ils vont arrêter de mettre du papier de toilette sur les tablettes, là. Fait que dans le comportement humain, je trouve que c'est important quand on fait une transaction, quand on débute, de dire « OK, cette compagnie-là, bon, je l'utilise chaque jour, puis je pense vraiment que l'année prochaine, puis dans 5 ans, elle va être encore là. » Fait que ça peut nous rassurer à long terme, je pense.
C'est ça, parce que Michel, tantôt, tu disais aussi, là, dis-moi si je me trompe, ça se peut très bien, plus une compagnie est présente, plus longtemps, exemple Visa, ça fait longtemps qu'ils sont là. Mais là, si Facebook, exemple, tu me disais, ils veulent peut-être entrer dans le milieu, dans le domaine, bien, Visa va avoir une longueur d'avance parce que ça fait plus longtemps qu'elle est là.
Oui, puis ce qui est important, c'est de comprendre, c'est que quand on regarde l'évaluation du S&P 500, le principal indice de référence, aujourd'hui, il y a beaucoup de valeurs attribuées à des actifs intangibles. Un actif intangible, c'est quoi? C'est que c'est pas du mobilier.
C'est du data.
C'est de la donnée, absolument. Ouais. Puis ce qui arrive, c'est qu'une des valeurs qu'on donne, c'est la réputation de la firme, le nom de la firme. Ça fait partie de l'intangible. Vous savez que Coca-Cola, là, la valeur de la marque est incroyable, puis elle apparaît au bilan de Coca-Cola parce que ça vaut quelque chose. Mais Visa, c'est la même chose. Du jour au lendemain, tu as une carte de crédit Facebook, est-ce que c'est crédible? Peut-être, mais il n'y a rien de mieux que de dire « j'ai ma carte Visa ». Parce que tu sais qu'à travers le temps, ils ont vraiment été solides, il n'y a pas eu de scandale, puis toi, tu as déjà goûté à ce produit-là. Donc, ton point, il est super bon. Donc, une compagnie qui est là année après année, et ça, c'est un autre point de départ quand on veut faire de la recherche là, pour l'étude de cas, c'est de trouver des entreprises qui versent des dividendes année après année et qui sont en mesure de croître ce dividende-là. Donc, il y a différents noms.
Explique un dividende, Michel.
Ouais, oui, ça, un dividende, un très bon point. Une compagnie va faire, mettons, là, 1$ de vente. Puis là, au final, après les coûts, elle va faire 40 sous de bénéfices. Qu'est-ce qu'elle fait avec ce bénéfice-là de 40 sous? Elle peut le réinvestir dans l'entreprise ou le redistribuer, par exemple, à l'actionnaire. Et ça, on appelle ça un dividende. C'est comme une ristourne de caisse populaire.
Ouais.
Okay? On remet des sous à ton actionnaire puis on appelle ça un dividende. C'est le fun pour certaines personnes d'avoir des actions qui donnent un dividende. Pourquoi? Parce que quand tu approches l'âge de la retraite, tu aimes ça avoir une rentrée d'argent sans vraiment gruger dans ton capital.
Est-ce que c'est tous les actions qui donnent des dividendes?
Non, c'est pas toutes les actions. Parce qu'évidemment, quand tu es une action qui rentre en bourse, toi, ce que tu veux faire, c'est de croître, dans le fond, ton entreprise. Alors, tous les bénéfices que tu vas faire, tu vas le réinvestir dans l'entreprise. Souvent, quand on verse un dividende, c'est quand c'est une entreprise qui est plus mature ou qui a quand même une croissance qui est plus limitée. Ce qui est le fun, c'est d'avoir une entreprise qui t'offre les deux. Qui t'offre un petit dividende intéressant, mais qui a un profil de croissance qui n'est pas pire. Et là, on pense à Apple. Apple te verse un bon petit dividende, puis il est capable de croître aussi. Alors, pour venir aux dividendes, c'est qu'il y a des actions qui, à travers le temps, essayent d'augmenter le dividende sur une base annualisée. Et là, on donne des termes à ces compagnies-là. On appelle aristocrates ou ce qu'on appelle les kings ou les champions en anglais. Et ça, c'est des entreprises qui croient le dividende depuis 50 ans, depuis 20 ans, depuis 10 ans. Et ça démontre quoi? De la solidité. Puis de mémoire, je pense qu'il y a seulement une trentaine d'entreprises du S&P 500 qui ont été en mesure de croître leurs dividendes lors des 50 dernières années. Alors ça pourrait être aussi une bonne piste de départ, à savoir dans quoi que je veux investir. Et là, tantôt, Samuel, il parlait de Procter & Gamble. Procter & Gamble fait partie de ces compagnies-là. Okay. C'est des compagnies qui ont une très bonne réputation, sont dans notre quotidien. Mais encore une fois, on doit se poser la question, est-ce que l'action est chère ou pas, si tu veux faire vraiment plus la négociation active. Mais si tu es un investisseur à long terme, tu dis, j'y vais, puis je le garde. Puis si quelqu'un qui va être un peu plus dans le timing, là, il pourrait embarquer l'analyse technique et par la suite, le sentiment. Pourquoi le sentiment, c'est important? C'est que si tu aimes une action comme, par exemple, Procter & Gamble, et là, le marché corrige violemment, OK? C'est-à-dire baisse de 10 à 20 %. Et si tu vois que c'est juste un événement qu'on appelle macroéconomique, puis tu te dis, est-ce que ça va vraiment changer quelque chose pour l'action? Non, mais l'action va avoir reculé. Tu pourras faire le plein d'actions parce que le sentiment était mauvais. Et le meilleur exemple que je donne, c'est l'Ebola. Je ne sais pas si vous vous souvenez, là, oui. Il y a quelques années, ouais. Il y avait eu là, malheureusement l'épidémie d'Ebola en Afrique. Et on avait entendu parler qu'il y avait une dame, je pense qu'elle s'est dirigée vers Dallas, qui avait l'Ebola. Et le marché boursier avait perdu là, plus de 15 % en l'espace de 2 semaines. Donc, quand on a une nouvelle de ce genre, toutes les actions reculent de façon indiscriminée. Et là, toi, tu te dis, moi, là, j'aime telle action. Puis là, elle est poignée dans une spirale baissière. Le sentiment, il est extrêmement mauvais. Mais moi, j'ai en tête l'action que je veux acheter. Et là, techniquement, tu regardes à quel niveau que je pourrais l'acheter. Et là, tu regardes ton graphique. Par le passé, elle s'est négociée à ce niveau-là, et je vais rentrer là. Et là, l'action va là, et là, tu l'achètes. Parce que tu crois au fondamental, le technique est là et surtout que le sentiment il est mauvais. Alors, de toujours penser en termes de trio, en termes de triangle, ça va vous permettre vraiment là, d'obtenir du succès à long terme.
Bien, tu parlais de l'Ebola, c'est la même chose qui est arrivée lors de la pandémie du coronavirus. Est-ce que je me trompe?
C'est sensiblement la même chose, c'est juste que pour la COVID, ça a été un mouvement beaucoup plus prononcé à la baisse. On parle plus de 30 % de baisse. Puis là, c'était vraiment une peur parce qu'on est tombé en confinement social.
Ouais.
Ça a touché l'économie. Tandis que l'Ebola, c'était une crainte que ça affecte l'économie, mais peut-être finalement,
stress,
ça ne s'est pas matérialisé.
C'est ça. Rapide, mais que, tu sais, souvent, tu sais, on peut voir ça de. C'est soit une opportunité ou le contraire. Là. Mais quand on voit des stress dans l'économie comme ça, puis il y a des fortes chutes prononcées, que tu te dis, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ça peut être des méchants bons moments d'entrée parce que c'est juste du temporaire. Puis ça arrive quelques fois par année, tu sais, qu'il y a des stress dans l'économie où, mettons, le S&P 500 va baisser de 4-5 % d'une shot. Puis t'as certains stocks qui vont baisser, mettons, de 10-12 %.
Ouais.
Fait que si tu les as sur ta watchlist ou tu les regardes, sur une base mensuelle, puis que bon, tu remarques que là, le trou d'entrée est parfait, ben, tu sais, faut pas que tu te poses la question pendant 2 semaines. Là. Il faut que tu rentres et que tu prennes la vague. Parce que juste le fait de prendre la vague à ce moment-là peut te faire gagner plusieurs mois, voire plusieurs années de rendement que normalement tu n'aurais pas fait juste en rentrant dans le bon moment. Parce que tu sais, tu as une correction de 10 %, puis le 10 % tu vas le rechercher dans les 2 prochaines semaines, ben, tu sais, tu as fait 10 % en 2 semaines.
Mm-hmm. Ouais. Puis son expression watchlist, c'est vraiment intéressant. On appelle ça liste de surveillance. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait un plan de match ou un plan d'action d'avance, puis on dit, moi, j'ai envie d'acheter telle ou telle action et on met des prix qu'on veut rentrer.
Okay.
Et ça, c'est ta watchlist ou liste de surveillance. Et tu es capable de mettre des alertes sur tes plateformes de négociation, c'est-à-dire que si l'action atteint ton prix, tu as un bip où ça t'apparaît. Okay. Hey, l'action se négocie là. Et là, toi, ça t'amène à te commettre. Puis enlever un peu d'émotion, me dire, OK, ben là, ça, je l'avais anticipé, c'est arrivé là, j'ai le signal, go, planche.
Mais la watchlist, c'est pas comme le stop. Le stop, ça se fait automatique. Là, tu peux pas rentrer automatiquement.
C'est différent. Une watchlist, dans le fond, c'est comme une liste de contrôle. C'est comme une checklist. Mm-hmm. Puis là, tu te dis, moi, je veux surveiller telle ou telle affaire. Comme un pilote d'avion qui arrive pour décoller, ben toi, tu vas faire ta watchlist pour savoir qu'est-ce que je rentre dans mon portefeuille. Mais là, tu peux l'automatiser en mettant un système d'alerte. Un ordre de vente stop, par exemple, lui aussi, ça se prépare, à savoir que tu vas acheter un titre à 10 puis tu vas le vendre à 8. Tu vas le rentrer dans la machine. S'il va à 8, tu vas vendre le titre.
C'est ça.
Tandis qu'un watchlist, tu auras toujours l'option de ne pas le faire. Tandis qu'un ordre de vente stop, il va se déclencher par lui-même. C'est ça la petite nuance.
Parfait.
Et puis, une autre affaire aussi, je trouve qu'il serait important à parler. Tu sais, il y a certaines compagnies comme des grosses télécoms ou des grosses capitalisations où leur mouvement est relativement lent. Ce qui veut dire que, tu sais, t'auras pas du moins 5 % une journée puis des trucs du genre. Tu sais, leur bêta est souvent en bas de 1. Tu sais, des fois, les points d'entrée peuvent être plus difficiles à identifier parce que les mouvements sont tellement bas que, Mm-hmm. Tu te dis, bon, y a, le momentum est comme jamais là. Mais si on regarde la croissance à long terme de ces compagnies-là, c'est quasiment toujours le temps de rentrer parce que c'est vraiment une grosse machine. C'est un gros train qui va pas vite, mais il monte tout le temps. Là,
right.
Fait que des fois, de pas arrêter, moi, c'est ce que je trouve, là, c'est que de pas s'arrêter à dire, bon, mais là, il faut que je le prenne dans le bon moment, mais il n'y en aura jamais de bon moment. C'est que les mouvements sont trop petits des fois.
Absolument. Puis ce qui arrive, c'est que quand, mettons, tu analyses une compagnie à 40$, puis là, tu dis, moi, mon potentiel de gain, c'est qu'il s'en aille à 60$. Puis là, l'action là, arrive à 41, 42. Là. Puis là, tu dis, moi, je veux l'attendre à 40. Là. Le problème, là, c'est que si tu attends le moment parfait, tu vas avoir plus de douleur émotionnelle si tu l'as raté, à savoir que le titre part puis toi, tu n'es pas là, que si tu l'achètes à 40 puis il se ramasse à 38, c'est pas grave parce que tu l'aurais acheté à 39 ou 38 quand même. Ce qui est important, c'est vraiment te dire, quand j'arrive pour prendre ma décision, je suis là pour le long terme, je ne suis pas à 1 ou 2 $ près. Puis l'autre point qui est vraiment intéressant, c'est que souvent, les gens qui font la négociation active, j'ai pas vraiment de succès parce que je négocie activement du Bell ou du TELUS. Et tu peux pas négocier ces titres-là parce que comme je dis, Samuel, il bouge pas, il bouge mal, c'est tout croche. Ça, c'est vraiment des titres d'investissement à long terme. Mais tu vas avoir un titre comme, mettons, NIO de voiture électrique. Ça, c'est un titre qui est explosif. Oui, tu peux faire de l'investissement boursier à long terme, mais il faut que tu le regardes. Il faut que tu y donnes l'amour parce que ça va brasser, mais c'est davantage un outil de négociation, là, vraiment. Là.
Puis, il y a un point que j'aimerais qu'on parle aussi, c'est que, tu sais, bon, là, une fois qu'on a ce triangle-là d'analyse, faut avoir une certaine composition du portefeuille.
Oui.
Puis, tu sais, tu parles souvent qu'il faut entre 12 et 18 actions dans le portefeuille ou quelque chose du genre. mais il faut aussi différents secteurs. Absolument. Fait que veux-tu nous en parler de ça? Parce que l'analyse de chacun des stocks va peut-être être différente parce qu'il y a différents secteurs, différentes volatilités, différents blablabla. Là,
c'est tellement important parce que tu veux des actions qui ne se comportent pas de la même façon. Évidemment, si tu prends une action d'énergie dans ton portefeuille, mais tu prends une action, mettons, de cuivre dans ton portefeuille, puis tu prends une action d'institution financière. À la base, là, ça a l'air bien correct. Tu as trois actions de trois secteurs d'activité différents. Mais savez-vous quoi? Ça va se ressembler pas mal parce qu'ils sont vraiment en lien avec le cycle économique.
Okay.
Ce sont trois titres vraiment fortement liés à la performance économique. C'est des titres cycliques. Si le marché commence à aller vraiment pas bien, ces trois actions-là vont baisser à l'unisson. Et quand l'économie va reprendre, ces trois actions-là vont bien faire. Ce qui est important vraiment quand on construit le portefeuille, c'est vraiment savoir est-ce qu'il se comporte de façon... là, identiques ou différentes. C'est pour ça qu'il faut y aller avec des secteurs plus défensifs. Secteur défensif, télécommunications, les services publics qu'on appelle en anglais les utilities ou consommation de base. On pourrait avoir dans ton portefeuille, mettons, du BCE, tu pourrais avoir du métro, tu pourrais avoir de la Banque Royale. Là, tu aurais trois positions au Canada. Ce qui est intéressant au niveau de la diversification, c'est qu'il faut aller à l'international. Hein, parce qu'on est au Canada, on a souvent tendance à privilégier les actions canadiennes, mais on va aller, mettons, aux États-Unis. Et là, tu pourrais y aller, par exemple, avec un Visa, que oui, c'est une institution financière, mais c'est des cartes de crédit. Tu pourrais aller avec une techno comme Amazon, et là, tu es déjà rendu à 5 titres. Et là, tu pourrais dire, ça me prend un peu là, des actions japonaises. Mais là, moi, je ne connais rien au marché japonais, mais je vais acheter le fonds négocié en bourse du marché japonais. Je pourrais acheter des fonds de Chine, pays émergents. Et là, tu es rendu à 7, 10 titres. Puis là, tu pourrais dire, sais-tu quoi? Moi, là, j'aime beaucoup la thématique là, des panneaux solaires. Puis là, tu vas aller chercher une exposition vraiment particulière là, à une thématique que tu aimes beaucoup puis que tu as lu là-dedans. Alors là, tu construis ton portefeuille. Puis là, il commence à être bien balancé. Puis il est capable de monter aussi parce que tu as certains secteurs d'activité plus explosifs. Puis tu as aussi un peu de dividendes qui rentrent. C'est un peu ça la perspective pour construire un portefeuille. Et la beauté, c'est qu'aujourd'hui, il y a des organisations qui te permettent de construire un portefeuille. Ils vont te proposer des fonds négociés en bourse ou des fonds comme un placement parce qu'ils tiennent compte justement de ce jeu-là, à savoir si on se comporte pareil, qu'on appelle la corrélation. Hein. J'en ai déjà parlé, la corrélation de 1, ça veut dire que deux actifs vont se promener de façon identique, mais toi, tu veux une corrélation qui tend zéro ou même négative, c'est-à-dire en relation inverse. Et on a des logiciels aujourd'hui qui sont capables de te dire, regarde, voici un portefeuille de fonds négocié en bourse géré passivement qui est vraiment là, optimisé au niveau de la diversification.
Puis il y a un truc là-dedans, Michel, que je pense qu'il ne faut pas oublier cette prémisse-là, c'est que tu sais, détenir des actions individuelles, je pense que c'est parce qu'on aime ça. Oui. Parce que si on espère faire les meilleurs rendements puis battre l'indice, les chances sont que probablement on ne sera pas capable sur le long terme. Mais fait que c'est ça. Fait que si on ne traite pas nécessairement à détenir des actions puis de regarder ça sur notre cellulaire puis ça a monté, ça a baissé, ben si on veut la croissance, ben de peut-être plus se diriger vers un fonds indiciel, admettons le SPY, puis juste dire, regarde, je mets ça là-dedans, je m'en occupe pas, puis on se revoit dans 15 ans, mon chum. Puis dans 15 ans, ben, t'as battu quasiment tout le monde qui avait des actions séparément.
C'est vrai, parce qu'on dit que quand on commence à la bourse, si t'as pas un 25 ou un 50 000 $, on va y aller avec un fonds négocié en bourse pour justement avoir la diversification. Mais c'est plate parce que moi, j'ai jamais vu deux gars jaser dans un party puis dire hey, « moi, mon fonds Fidélité Action Canadien de croissance, hey, il torche. Ouais. » Ben non, c'est bien plus
sexy,
fun de
là,
dire «
Hey,
j'ai acheté Tesla là, je l'ai vendu là. » Pourquoi? Parce que l'être humain aime ça raconter des histoires et tu ne racontes pas des histoires avec un fonds commun de placement. Tu vas raconter des histoires par rapport aux actions que tu détiens. Ça, c'est vrai, c'est la nature humaine.
C'est comme faire du sport versus du tapis roulant dans ton salon. Oui, je veux dire, tu fais le sport pour le thrill, puis c'est cool, puis t'as une gang. Mais tu sais, quand tu veux te mettre en forme du tapis roulant, faisant deux heures chaque jour dans ta maison, tu vas être en forme. Là,
mais tu sais, t'as dit, Michel, 25 à 50 000 $ au début, t'as pas ça. Puis si tu t'aimes ça, tu veux avoir dans différents secteurs, différentes actions, est-ce que t'es mieux de, exemple, avoir une action dans une compagnie dans comme plein de secteurs? Ou, puisque tu n'as pas beaucoup d'argent, pour que ça soit peut-être un peu plus rentable, de centraliser peut-être 5 actions différentes pour débuter, mais qui sont plus importantes?
Bien, écoute, moi, j'irais vraiment là, comme une fondation de maison. Hein? C'est vraiment important, le solage. Moi, j'irais avec un fonds négocié en bourse. Ton premier 1000, 2000, 3000, commence avec
même
ça.
Même 5000 puis 10 000.
Oui, tu vas te familiariser un peu avec comment ça fonctionne, puis ça va te permettre le temps d'étudier des actions. Puis là, par la suite, tu pourras rajouter une action ici et là, mais je ne ferai pas l'inverse parce que si tu achètes pour 1000 $ d'une action ABC, tu n'en auras pas beaucoup.
C'est ça.
T'sais, c'est une action qui est à 5$, on va avoir pour 200 $, tu vas te dire, tabarouette, ça ne monte pas vite, puis tu vas trouver ça plate, puis tu vas vraiment t'emmerder pour éviter que tu y ailles avec le l'appât du gain, puis hey, ça va être excitant. Pense à long terme. Regarde, je mets là, je mets ma base, puis après ça, je vais en rajouter. Moi, j'ai dit vraiment, là, quand on commence avec un peu d'argent, allez-y avec des fonds négociés en bourse. Parallèlement, je t'invite à faire du trading virtuel, c'est-à-dire la négociation active sur papier. On n'est pas live, on n'est pas en direct, il n'y a pas d'argent qui est en jeu.
C'est un compte fictif, là.
C'est un compte fictif. Pratique-toi. Pratique-toi à lire des entreprises au niveau des états financiers, à faire des investissements fictifs pour voir est-ce que tu as une méthodologie, une approche. Puis là, après ça, tu commences là, à faire des placements.
Puis t'en parlais dans un autre épisode de peut-être pas avoir 1 000 000 dans ton compte quand, lorsque c'est fictif. Essaie de faire comme si t'étais dans la vraie vie.
C'est ça, tu sais. Ouvre-toi un compte fictif avec mets 5 000, mets 10 000 ou mets l'équivalent de ce que tu aurais à investir. Puis tu sais, travaille avec ça pendant une couple de mois. Puis quand tu vois que tu as du succès puis que tu aimes ça, ben là, de passer avec de la vraie argent, ben tu vas avoir anticipé c'est quoi la game. Puis tu sais, moi, il y a une affaire que je remarque, là, c'est que quand tu te mets à investir ton argent et tu as certaines actions, tout dépendant tu es dans quel domaine, tu t'es tenté à regarder le marché, à regarder sur ton téléphone, sur ton application, de voir les stocks qui sont rendus où. Puis, faut pas minimiser l'impact que ça peut avoir dans une journée. Tu sais, si tu travailles pour quelqu'un, tu es toujours en train de checker ton sel, puis c'est en train de t'affecter, puis là, tu dis, Carlis, il faut que j'aille aux toilettes à vendre mon Tesla parce que je perds trop. Bien, ça va affecter ta vie de tous les jours. Ça va affecter ton travail.
Ouais.
Fait que, faut pas minimiser l'impact de ça. Surtout que, aussi potentiellement, tu battras pas l'indice à long terme. Tu sais, il faut penser avec un grain de sel, je pense, là, tu sais.
Oui, oui, tout à fait. Puis, c'est pour ça que si tu fais pas l'argent sur papier, tu le feras pas en temps réel. Parce que, évidemment, tes émotions embarquent. Puis, quand tu commences à jouer à la bourse, puis c'est une expression que je déteste parce que tu ne joues pas aussi, à la bourse, c'est très sérieux. C'est de l'argent que tu t'es battu pour avoir. Faut y aller progressivement. Surtout quand tu fais la négociation active. Moi, je me rappelle, j'avais fait un stage dans une entreprise dans le Vieux-Montréal, puis j'étais sur le simulateur, puis il fallait que je fasse 100 $ par jour pendant 2 semaines avant de passer à un autre niveau, au niveau de la quantité d'argent qu'ils pouvaient me donner.
OK.
Là, tu te dis, hey, 100 $ par jour, c'est facile, mais tu ne veux pas perdre 300 ou 400 parce qu'ils t'arrêtaient, là. Mais c'est tough.
T'as réussi.
Oui, ouais. Mais au début, c'est dur parce que tu dois gérer ton risque et tu ne peux pas te faire pincer. Tu viens de perdre 300 parce qu'eux autres donnent un montant X à faire. Mais c'était la drill. C'est de savoir comment tu vas être capable de composer avec le fait que le marché bouge, que toi, tu es nerveux, puis tu vas dévier de ton plan. Puis, dans le fond, négocier 1000 actions, c'est la même chose que négocier 50 000 actions. La seule différence, c'est la composante émotionnelle. Les gens, ils disent « Yes, j'ai mon compte ouvert, think big, all in. » Et là, ça commence à brasser, puis là, ils ont de la misère, puis ils sortent au mauvais moment. Commence par 1000 actions, 2000, vas-y progressivement, puis là, tu vas être plus en contrôle parce que tu vas être constant.
Puis Michel, je me trompe-tu quand je dis ça, que plus ton portefeuille monte, plus tu as d'argent, tu sais, mané, ton niveau de risque, ta soupape, là, le risque, ça te percute beaucoup plus là, dans le sens que quand tu es rendu avec 50 000, 100 000, 200 000, ben là, l'impact de perdre 25 000, des fois, il est plus grand que l'impact de perdre 1000 quand tu avais 18, 19 ans. Ouais. Fait que notre réalité face au risque, elle va évoluer au fil des années. Puis je pense que quand tu es jeune, c'est le meilleur temps pour prendre des risques parce que tu as du temps pour te refaire. Mais il faut penser que ce que tu mets en place aujourd'hui, si tu penses te garder à long terme, faut quand même que tu te fasses une base solide à long terme. Ouais. Versus que si tu dis, ben moi, dans la vie, je veux être un day trader, je veux être un négociateur actif, ben là, tu vas peut-être changer tes plans là, dès le départ. Là. Mais je pense qu'il faut avoir un horizon à long terme, puis il faut savoir où on s'en va, pas juste d'aller à gauche-droite, 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 parce que je pense que tu vas faire du surplace à la fin de la journée. Puis il n'y a rien de plus plate que tu es rendu en novembre, hey, t'as fait, t'es à plus 15%, puis là, tu fais une mauvaise trade en décembre, puis t'es à moins 1. Toute ton année, tu as travaillé fort pour faire ton argent, puis tu as fini à moins 1 à cause d'une niaiserie que tu as faite.
Ouais.
Fait que ça peut arriver, puis j'entends ça souvent, là, des gens que l'année, hey, plus 10, plus 15, plus 20, fini l'année, sont flat.
Mm-hmm.
Tu dis, ouais, tout le temps que j'ai investi pour ça, question se pose.
Mais il y a beaucoup de questions qui se posent. Je pense qu'on a quand même résumé bien les 3 derniers épisodes, là, les 2 trios de feu avec l'analyse fondamentale, l'analyse technique, l'analyse du comportement humain. On a fait un bon résumé pour vrai, les gars. Je suis content. Michel Villa, merci encore.
Un plaisir, merci à vous.
Et nous, on se dit à un prochain podcast de Garde le Change. Ciao!